things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, et ça rigole déjà, ça ne va pas durer. Elisabeth Philippe, Florent Changesco et Grégoire Leménager, nous parlerons ensemble ce soir de Par les routes de Sylvain Prudhomme à l'Arbalète, La fracture de Nina Hallan chez Tristram, Conversation entre amis de Sally Rooney aux éditions de l'Olivier. Il y aura un coup de cœur d'Elisabeth Philippe pour Avant que j'oublie d'Anne Poli chez Verdier. Nous ouvrons cette dispute avec un auteur dont nous avons régulièrement parlé dans cette émission, Sylvain Prudhomme, qui gagne en notoriété, livre après livre. L'homme, l'écrivain, a beaucoup voyagé, ayant grandi en Afrique, il y étant retourné à plusieurs reprises pour y travailler. Le héros de son nouveau livre, Sacha, décide lui de s'installer dans une nouvelle ville et va voir ressurgir un ancien ami qui lui n'a cessé d'arpenter les territoires.
J'ai retrouvé l'autostoppeur il y a 6 ou 7 ans, dans une petite ville du sud-est de la France. Après plus de 15 années pendant lesquelles, sans tout à fait l'oublier, l'autostoppeur n'est pas le genre d'homme qu'on oublie, j'avais du moins cessé de penser à lui aussi souvent que par le passé. Je l'appelle l'autostoppeur car c'est ainsi, affublé de ce surnom qui n'aura jamais existé que pour moi, dans mes adresses intérieures à lui, sans qu'il en sache rien, qu'il n'aura cessé de m'apparaître, tout au long des années où je l'aurais côtoyé. Tout au long de celles aussi où, éloignés l'un de l'autre, j'aurais pourtant continué de me le rappeler de loin en loin comme un repère. Les marrants ont un mot que j'aime pour cela, dans lequel on peut entendre ce qu'il faut d'ambiguïté, même si eux n'y attachent rien d'inquiétant, un amer. Je venais d'aménager à V lorsque j'ai appris qu'il vivait là, lui aussi. J'avais quitté Paris pour entamer une nouvelle vie. De toutes mes forces, je souhaitais changer d'air. Destruction. Reconstruction. C'était mon programme pour les jours et peut-être les années à venir. J'allais avoir 40 ans. Depuis des années, j'écrivais des livres. À Paris, je travaillais chez moi. Je sortais, je rentrais travailler. J'allais aux choses, les choses venaient à moi. Je rencontrais des gens. Certains me devenaient chers. Je tombais amoureux. Je cessais de l'être.
Après la lecture du début de ce livre de Sylvain Prudhomme, lecture faite par David Dana, un tour de table d'abord, on reprend nos habitudes pour une première impression sur ce livre, impression synthétique. Elisabeth Philippe ?
Eh bien, ce livre mérite qu'on y embarque, donc on embarque par les routes aux côtés de Sylvain Prudhomme parce que c'est un magnifique voyage.
Florent Georgesco ?
C'est une très belle longue qui sait saisir un type de couleur, d'émotion, peut-être un seul type, et je finis par moment par ressentir ça comme de la monotonie.
Grégoire Leménager.
C'est beau comme une chanson de Leonard Cohen, donc c'est difficilement de plus beau. Je pense que c'est vraiment un des plus beaux livres de l'année.
Bon, bah alors commencez alors à nous en parler. Pourquoi est-ce que c'est un des plus beaux livres de l'année ?
Eh bien, je ne sais pas.
Ah. Et ah c'est ça, une très
c'est
bonne
ça que je
réponse.
Extraordinaire.
Moi, je reprends cette réponse assez régulièrement. Hein. Quand c'est vraiment très, très bien, on
vraiment,
ne sait pas.
Il y a quelque chose, mais comme les chansons de Leonard Cohen, c'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire qui est assez simple, une histoire avec trois personnages, deux garçons, une fille, un garçon qui va prendre la place de l'autre auprès de la fille. Bon, dit comme ça, ça mérite, ça n'a pas un intérêt colossal. Alors, il se trouve que le garçon qui va s'effacer du livre petit à petit est un drogué de l'autostop.
On appelle l'autostoppeur.
On l'appelle l'autostoppeur du début à la fin du livre. Ouais. Ça le singularise un peu. Cette passion pour l'autostop inspire des pages qui sont très chouettes à Prud'homme sur sur le fait de traverser la France, sur le fait de le type d'hospitalité que ça met en jeu. Il dit le critère suprême de l'hospitalité pour moi, c'est que quelqu'un m'ouvre la portière de sa voiture pour me faire rentrer dans sa voiture. Donc il y a des très belles pages sur la notion de rencontre et tout ça. Mais tout ça ne suffirait pas à faire un livre, un des plus beaux livres de l'année. C'est écrit dans une langue qui est très simple, comme vraiment, moi, je pensais à Leonard Cohen parce qu'il en est question à un moment dans une page, mais l'ensemble du livre repose là-dessus. C'est vraiment un livre de songwriter, quoi. Il y a quelque chose de très épuré, d'assez. C'est aussi une sorte de parabole et qui, au passage, tout en étant assez sensuel quand même, met le doigt sur des questions existentielles assez importantes. Tous ces personnages ont la quarantaine, ils sont à la moitié de leur vie. Il y en a un qui cherche à se poser, l'autre qui cherche à partir. Il dit à un moment, le monde se partage en deux catégories, ceux qui partent et ceux qui restent. Et le bonheur, il est où? Est-ce qu'il est dans le fait de rester, d'essayer de cultiver son jardin et de développer quelque chose de manière un peu modeste? Ou est-ce qu'il est dans le fait de toujours tout remettre en jeu et de repartir à l'aventure? C'est des questions qu'on a le droit de se poser, peut-être en particulier quand on a 40 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout 40 ans, donc je ne me rends pas compte de ce que.
Mais vous les aurez bientôt, Grégoire.
Mais
ça viendra.
Mais voilà, donc je ne vais pas monopoliser le. Non, mais du coup, il y a quelque chose d'assez mystérieux, mais il y a une grâce inouïe, il y a une forme de douceur aussi, de façon de jamais juger ces personnages, de nous confronter aux choix existentiels qu'ils font et de nous renvoyer aux nôtres, quoi, de manière très, très modeste et très lumineuse, très. Ben voilà, j'ai été vraiment, vraiment emballé par ce livre.
Alors, Florent Georgescu a commencé cette nouvelle saison de la dispute avec des mots positifs sur un livre qu'il n'a pas mis au sommaire, ce qui était une rentrée surprise de votre part. Mais il y a aussitôt eu un bémol.
En 2015, je crois.
Il y a aussitôt eu un bémol.
Oui, il est difficile de ne pas être frappé par le talent de Sylvain Prud'homme, sincèrement.
Donc, ça recommence.
Je ne vais certainement pas chercher à dénigrer ce livre qui mérite vraiment. Enfin, le talent de Prud'homme mérite vraiment du respect et de l'espoir, en quelque sorte. L'espoir qu'il a souvent rempli. Je n'ai pas lu tous les livres de Prud'homme. Je garde de très beaux souvenirs de ses livres africains, justement. Mmh. Vous évoquiez la partie africaine de sa vie. Il y a une partie africaine de son œuvre aussi. Peut-être parce que, justement, il trouvait là une énergie plus grande. Mais je vais continuer à en dire du bien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a à la fois de très, très belles idées romanesques. La volonté d'attraper, non seulement, Grégoire a raison, sur le livre porte presque essentiellement, presque intimement, dans toutes ses tonalités, justement, sur le milieu de la vie, sur la quarantaine, sur l'incertitude des chemins qu'on prend. Mais par ailleurs, dans cette question-là, l'opposition des deux personnages masculins, en tout cas, permet de saisir quelque chose de très fort sur le sentiment qu'a le narrateur, enfin qu'a le personnage principal, de ne pas vivre, de ne pas savoir s'embarquer, justement, de ne pas savoir prendre les routes dont le titre parle. Il faut dire que, vous l'avez dit, c'est une réconciliation, en tout cas c'est une retrouvaille entre deux garçons, et la rupture entre eux est un motif très important dans le livre, puisque au fond cette rupture se poursuit en quelque sorte à travers tout le livre, elle marque toute leur relation, parce qu'elle tenait à quelque chose d'insupportable pour le protagoniste, qui est que il avait le sentiment que l'autre avait plus de vie, plus de capacité d'attraper la vie que lui. Et tout court autour de ça, et le motif de l'autostop est évidemment une manière d'illustrer ça. C'est une très belle idée. Tout cela est porté par une très belle langue. Prud'homme écrit vraiment très bien. Mais
je dirais
tout à l'heure. En tout cas, tout cela, il faut le dire.
Écoutons Elisabeth Philippe à présent.
On n'a pas ce niveau-là tout le temps.
Loin s'en faut.
Oui, moi j'étais très très sensible à l'écriture de Sylvain Prud'homme, donc je suis curieuse d'entendre les réserves de Florent sur celle-ci. Non, c'est un très beau livre, enfin Grégoire l'a très bien résumé. C'est vrai qu'avec énormément de simplicité, avec cette écriture qui est ramassée, sobre, dense, là c'est trois adjectifs que j'utilise à dessein parce que ce sont les trois adjectifs qui qualifient la vie à laquelle aspire le narrateur Sacha qui est romancier et qui voudrait pareil avoir une vie ramassée, sobre et dense. Et donc, avec cette très grande simplicité, il touche à des questions essentielles. Et à un moment, l'autostoppeur, toujours dans cette avidité de rencontre et de pouvoir avoir des rencontres les plus profondes possibles, qu'est-ce que c'est finalement que de rencontrer l'autre ? Il se réfère au livre de Lénine, Que faire ? Et c'est la question la plus simple du monde, mais ce livre la repose à sa façon. Que faire finalement dans la vie ? Qu'est-ce qu'on fait de cette vie dont on hérite ? Et c'est aussi une très très belle réflexion sur le temps, puisque Sacha, le narrateur, est donc écrivain et cherche à écrire une contre-éducation sentimentale. Il cite notamment ce passage, la fin très très rapide, je ne pourrais plus la citer de mémoire, sur Frédéric Moreau, il a pris des paquebots. Ça m'échappe. Enfin, tout est résumé en trois phrases. Il voyagea. Et il parle d'un temps dilapidé. Alors, ce temps, est-ce qu'on le dilapide, effectivement, ou est-ce qu'au contraire, on essaye de le retenir, de le garder ? Est-ce qu'on choisit ? Donc, tout fonctionne par opposition entre la stase à laquelle aspire le narrateur et le mouvement dans lequel s'échappe continuellement l'autostoppeur. Comment on use de son temps ? Comment on use de sa vie ? Enfin, c'est des questions extrêmement, extrêmement profondes. Et effectivement, dès qu'on commence à faire du commentaire, à commenter le livre de Sylvain Prudhomme, on risque de tomber dans des grandes banalités, alors que son livre est tout sauf ça. Et les rares fois où il pourrait être grandiloquent, j'ai eu très très peur à un moment, je vous cite juste un passage, c'est page 46. Donc Sacha explique à son ami retrouvé, à l'autostoppeur et à sa femme, sur quoi il travaille en ce moment. Et puis il explique « L'amant de ma vieille dame, c'est le monde ». Alors là, quand j'ai lu cette formule, je me suis dit « mince, ça commençait si bien ce livre, je suis navrée ». Et quelques lignes plus loin, « Il y a eu un temps, laissé en suspens, mes mots m'ont semblé fantastiquement cons ». Alors, ça m'a beaucoup amusée. Effectivement, il n'y a jamais cet écueil, enfin, il n'y a jamais ce problème de la grandiloquence. Non, mais c'est vrai, j'ai craint le dérapage.
Mais ce n'est pas l'excitation, parce que vous vouliez en dire du mal.
Non, pas du tout, c'était pas du tout.
Absolument pas.
C'est chercher l'erreur.
Mais c'est ça touche à l'essentiel. Sans tomber dans faire de grandes phrases sur la vie, le sens de la vie, c'est vraiment ce livre est stupéfiant pour ça, de nous relier à des questionnements essentiels et de les formuler de façon extrêmement lumineuse.
Alors avant les réserves de Florent Georgescu, plutôt que de faire du commentaire, ce qui est difficile, moi j'avais une proposition, parce que essentiel, existentiel, je ne connais pas du tout Sylvain Prudhomme personnellement, mais j'ai lu à force un certain nombre de ses livres, et je me suis demandé si c'était pas on pouvait pas le lire aussi comme un autoportrait en deux options, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas l'un et l'autre, très évidemment.
C'est une piste qui est évoquée aussi.
Ça donne vraiment ce sentiment. Oui.
D'autant que ça correspond justement à son œuvre, à la répartition de ses livres, à leur différence d'inspiration. Donc oui,
c'est une des clés.
Là, comme auteur, il a été les deux.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que qu'est-ce qui est le plus romanesque littérairement, qu'est-ce qui est le plus attirant et le plus sexy dans la vie, c'est quand même plutôt de bouger, de partir, d'aller à l'aventure. Enfin, c'est quand même plus facile d'écrire un bon roman quand il y a de l'aventure. Et là, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? C'est que lui, qui a écrit des romans qui utilise les séductions de l'exotisme, etc., et ben là, il essaye de leur tourner le dos pour essayer de nous montrer que du romanesque, de l'intensité, de la vie et des choses intéressantes, il peut aussi s'en passer dans une petite vie de couple assez calme, avec un enfant qui a l'air gentil, mais qui n'est pas non plus la septième merveille du monde. Et on fait la cuisine avec une femme qu'on aime, et on essaie d'écrire un livre, et il y a moyen de trouver une forme de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement de soi, comme ça. Et c'est relativement anti-romanesque comme choix. Et ça, je trouve que littérairement, c'est assez fort de réussir à faire ça, sans pour autant faire le procès du voyage, parce que l'autostoppeur, on se doute qu'il est un peu dingue, mais il n'est pas non plus complètement ridicule comme personnage, jamais. Il arrive à tourner le dos aux séductions du voyage sans pour autant faire le procès. Je trouve ça très, là aussi très fin.
Allez, réserve de Florent Georgescu.
Simplement, c'est ce que j'esquissais tout à l'heure. Pour moi, une monotonie s'installe parce que il y a sa langue prend son récit dans une patte homogène. Je trouve qu'il manque là-dedans un sens de la rupture, un sens du rythme impair, de la brisure, de quelque chose qui pourrait ajouter à tout cela une énergie qui est souvent, enfin qui est retenue. On peut dire que c'est un choix de sobriété, Sauf que ça finit par créer, enfin par réduire la capacité à dire les choses dont il parle, une capacité à montrer, à faire vivre davantage ces personnages. Il y a dans les deux élans, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, Grégoire, ce commentaire était très juste.
Merci. Pour le coup. Non mais finalement, les vacances vous font beaucoup de bien, Jean.
Mais oui, pas à vous. Il est vrai que vous n'en prenez pas. Mais il y a ces deux élans contradictoires, l'élan vers la maison, l'élan vers les routes. Il y a d'ailleurs dans la maison, puisqu'elle est un motif lié à la maison, le personnage de Marie, si je ne me trompe pas, de la femme de l'un qui devient la maîtresse de l'autre. On n'en a pas encore parlé, c'est un très beau personnage aussi. Mais tous ces trois personnages-là, tous les gens d'ailleurs, parce que il tente de faire une sorte de galerie de portraits à travers l'autostop, à travers les figures des gens qui prennent l'autostoppeur dans leur voiture, toutes ces figures-là, au fond, tendent, malgré ces oppositions sur lesquelles ils jouent, à se ressembler par la tonalité. Encore une fois, il ne fait entendre qu'un son, qu'une forme de mélancolie. Le narrateur écrit un roman qui s'appelle La mélancolie des paquebots, titre qui n'est pas très loin quand même de cette petite tendance à l'exagération.
Ça vient de Flaubert.
Oui, mais isolé comme titre, enfin, ça prend évidemment un autre poids. Et ce mot de mélancolie, cette mélancolie des paquebots, ce qu'il y a presque tout de même d'un peu proche du truisme dans la volonté de répéter que la vie amène le temps passant à la mélancolie, finit par faire piétiner un peu le livre et quelque chose ne décolle pas, quelque chose d'une force que le livre promettait ne se passe pas.
Ce qui ne change pas, j'ai beau faire des gestes envers Florent Jorlesco pour essayer
il m'a bien
de finir
nous sommes loin, Arnaud,
sa phrase bien. Pour laisser vos camarades y répondre. Il n'en tient pas compte. Elisabeth Philippe, pour répondre sur ces quelques réserves concernant Par les routes de Sylvain Prudhomme.
Assez en désaccord avec cette idée d'une homogénéité ou d'une forme de monotonie. Certes, l'écriture est assez, non pas étale, mais il n'y a pas d'effet de manche, rien qui
non,
dépasse.
Non, pardon, je ne parle pas d'effet de manche, je ne réclame
pas d'effet de manche. Non, mais bien sûr,
d'énergie, simplement.
Mais justement, je trouve que cette énergie, elle est là parce que déjà à cause du mouvement, qui est un des motifs quand même majeurs du roman, et puis dans le désir aussi.
Il est cyclique.
Dans le désir. Il y a des scènes magnifiques, notamment une scène de danse, il y a un dîner entre justement l'autostoppeur, le narrateur, la femme, et puis une autre jeune femme qu'a rencontré également le narrateur. Ils sont tous les quatre, ils ont un peu trop bu. Ils mettent Billie Holiday.
C'est possible.
Ils écoutent de la bonne musique.
C'est agréable.
Ils se mettent à danser. Il y a les corps.
Tout est de très bon goût et de très bon ton.
Oui,
c'est
mais...
ce qui peut participer à un léger
agacement. Florent, là,
tout le monde est tellement bien, tellement gentil, de bon goût.
Non,
bien élevé.
Alors, laissons conclure Grégoire Le Ménager.
Non, je voulais juste ajouter une chose, c'est que l'épouse de l'autostoppeur Marie est traductrice et elle. Elle traduit notamment un auteur italien qui s'appelle Marco Lodoli, que je n'avais jamais lu. Et on sent que Sylvain Prudhomme s'est certainement beaucoup inspiré de ce Marco Lodoli, puisque quand il demande à Marie de quoi parle le livre de cet auteur qu'elle est en train de traduire, elle lui dit, et je pense qu'en fait c'est le meilleur résumé de ce livre. Donc voilà la réponse de Marie. Ce livre parle de la vie qui passe, le temps qui s'en va, c'est tout simple. Il n'y a jamais rien de spectaculaire. Simplement les hommes et les femmes qui naissent, grandissent, désirent, deviennent adultes, aiment, n'aiment plus, renoncent à leurs rêves, au contraire s'y accrochent, vieillissent, s'en vont peu à peu, remplacés par d'autres.
Grégoire Le Ménager, vous voulez ajouter quelque chose?
Après ça, c'est difficile. Non,
ouais, c'est pour ça que je vous
demande. Toute petite précision, c'est à propos de cette histoire du style qui peut sembler un peu lisse. C'est que quand même, c'est un tour de force. C'est un roman dans lequel il n'y a pas un point d'exclamation, il n'y a pas un point d'interrogation. Ça pourrait apparaître comme une coquetterie insupportable de la part de Prudhomme. Finalement, ça passe absolument tout seul. Et ça n'empêche pas vraiment une multitude d'émotions et d'interrogations d'émerger de ce livre et de nous frapper, de nous traverser quand on le lit. Enfin, mais ça reste mystérieux tout ça.
Lisez Par les routes de Sylvain Prudhomme à l'Arbalète. Et je vous interromps parce que nous avons encore un petit programme. Vous savez, on va parler de La fracture de Nalan, on va parler de Conversation entre amis de Sally Ronet. Et Elisabeth Philippe nous parlera de Avant que j'oublie d'Anne Pauly.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec un nouveau roman de Nina Hallan, autrice britannique aux éditions Tristram, publié avec Fidélité. La fracture, traduit par Bernard Sigaud, est le cinquième livre de Nina Hallan, publié chez cet éditeur. Quelle est donc cette fracture du titre, le début du deuxième chapitre va vous renseigner, lui ici, par Boris Pinault.
Julie disparut un samedi. Selena avait souvent pensé que si sa sœur n'était pas partie, ce jour aurait été effacé de sa mémoire. Ou plutôt qu'il se serait simplement estompé, fusionnant avec tous les autres jours similaires dont elle n'avait aucune raison particulière de se souvenir. En fait, elle se le rappelait dans les moindres détails avec une précision tranchante comme une lame de couteau. Et encore, ce n'était pas exactement ça, elle s'en rendait bien compte. C'était moins les détails dont elle se souvenait que les détails tels qu'elle s'en était souvenue plus tard. Pour les policiers la première fois qu'ils vinrent à la maison, pour la policière qui l'interrogea plus tard à propos d'Alison Gifford, pour elle-même, lorsqu'elle repassa dans son esprit chaque moment de cette journée, à la recherche d'un indice dont elle savait déjà qu'elle ne le trouverait pas. Et comment pourrait-elle le trouver, puisqu'il avait été introuvable la dernière fois ou la fois d'avant ? Cet indice insaisissable, ce détail saillant auquel l'inspectrice revenait toujours et qui les conduirait à Julie. Saillant suggérait quelque chose qui émergeait, qui dépassait. Le problème, c'était que plus Selena se penchait sur ce samedi fatal, plus il lui semblait lisse. Les détails défilaient d'une manière fluide et ordonnée comme le texte d'une histoire qu'elle avait racontée si souvent qu'elle la savait par cœur. Rien ne dépassait. Rien ne saillait. Pas même les détails qui avaient semblé importants à l'époque.
La fracture, Nina Hallan, traduction Bernard Sigaud. Un premier sentiment sur ce livre, Florent ?
La surprise à chaque page, si je puis dire, parce qu'il y a tout dans ce récit, dans ce roman, tous les niveaux de surprise possibles, et c'est pas seulement, loin de là, l'aspect, disons, science-fiction du récit qui apporte le plus de surprises.
Grégoire Leménager.
C'est un peu comme un film de David Lynch, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin, on s'est jamais ennuyé, mais on se dit qu'on est passé à côté de quelque chose et qu'un jour il faudra le relire pour essayer de comprendre ce qui nous a échappé.
Elisabeth Philippe.
La vérité est ailleurs.
Ah, ça y est. Il aurait fallu qu'on ait un jingle avec un peu de musique de X-Files. Vous voulez développer cette idée-là, Elisabeth Philippe, tiens?
X-Files, c'est effectivement un motif qui court un peu dans le livre, puisque les deux sœurs, donc Julie et Selena, étaient très très fans de cette série donc de science-fiction. On se souvient Mulder et Scully qui enquêtent sur des événements un peu paranormaux. Non, ce livre, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que Florent a commencé à dire dans une phrase très très courte dont il a le secret.
la surprise, je ne relève même pas.
La surprise est presque à chaque page. C'est vraiment un livre aux fractures multiples et qui ouvre autant de pistes, en fait, qui ouvre vraiment à chaque fois des pistes différentes et qui ne se referment sur aucune d'entre elles. Il y a déjà une fracture dans la narration, puisque le livre débute comme un roman policier, un thriller assez classique. On pourrait penser à un livre à la Joyce Carol Oates avec une disparition d'adolescente, même si c'est déjà plus élaboré qu'un roman lambda, puisqu'il y a ce jeu entre le passé et le présent, des jeux temporels. Et puis il y a toutes les questions afférentes à ce genre littéraire-là. Est-ce que la jeune fille qui est revenue et qui prétend être la disparue est vraiment celle-ci? Donc est-ce que c'est une imposteuse?
Je vous laisse la responsabilité.
Non, vos camarades. Bref, il y a cette première
imposture.
Une imposture, exactement. Et puis, il y a tout d'un coup, au bout de, je sais pas, 150-200 pages, une fracture dans la narration. Donc là, c'était un récit à la troisième personne, à l'imparfait. Et on passe à un récit à la première personne. C'est Julie qui parle, donc la sœur disparue, et qui raconte ce qu'elle a vécu. Et ça, elle le raconte au présent. Et là, on bascule complètement dans un autre monde, dans la science-fiction. Et en fait, de ce type de fracture, de rupture, ce roman est... On est plein et c'est ce qui fait vraiment, vraiment son charme. Et on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser et on éprouve exactement ce qu'éprouve le personnage de Selena, la sœur qui est restée. Savoir qu'on ne sait pas dans quel monde on est, on ne sait pas dans quel genre littéraire on est. Et ça, je trouve que c'est vraiment le tour de force de Nina Hallan.
Florent Georgesco.
Oui, nous sommes bien d'accord. Je ne sais, je pense qu'il ne faut pas dire certaines choses sur le livre. Je crois qu'il faut
le gâchons pas.
Ne le gâchons pas. Oui.
On a déjà beaucoup
fait. On
ne va
pas dire ce que Julie raconte à sa sœur, en effet. Mais il faut comprendre que là, il se passe des choses littéralement extraordinaires, mais qui, j'y reviens, n'ont au fond pas plus de force, de magnétisme, je dirais, que n'importe quelle séquence du livre. Parce qu'en réalité, le mystère tient... Enfin, elle sait l'installer avec rien, avec en fait, je pense, d'abord un sens de l'incarnation de ces personnages, un sens de leur voix, de la précision de leurs gestes, quelque chose de au fond de très charnel dans leur présence. L'imaginaire est comme accroché à leur corps. Ce sont des corps très présents en face de nous, qui parlent et qui se racontent des histoires, et ces histoires crée à chaque fois la possibilité d'autres histoires, et à travers tout ça, la vérité en effet est indécelable, mais la vérité est comme un prolongement du caractère des gens, un prolongement de leurs sentiments, de leurs émotions, de ce qui se passe en eux, et cela marche en permanence. Et quand elle joue avec quelque chose de très naturaliste, les liens familiaux, l'histoire du père qui pendant la longue absence de Julie, parce que je ne sais pas si on a dit Julie, donc le personnage de la sœur, a disparu 20 ans plus tôt. Quand elle revient, 20 ans ont passé, le père, ça on peut le dire, est mort de chagrin. Il y a cette...
Ça, ce sont les premières pages, donc on peut le dire.
C'est très vite dit. Il y a cette simple présence de la vie du père, par exemple. Et je crois que c'est un bon exemple, le père, qui est un personnage relativement secondaire, relativement effacé, mais qui lui aussi monte dans une sorte de d'étrangeté, parce qu'on apprend qu'il a pendant 20 ans recueilli tout ce qui pouvait se dire sur sa fille. Il a notamment conservé les lettres que les fous ou les salopards envoient toujours aux familles de disparus, telle personne disant je suis un mage et je sais où elle est, etc. Et que peut-être il a fini par croire à quelque chose, et on voit juste la présence de cet homme dont elle rend l'épuisement physique et moral, et qui, peut-être pour trouver encore un tout petit peu de force vitale, va entrer légèrement dans ses discours délirants. Et comme par une sorte de pitié de l'écrivain pour ses personnages, elle finit, elle, Nina Allan, par pousser jusqu'au bout ses fantasmes. Et la science-fiction devient une sorte de réponse très douce, très pleine de pitié pour ces personnages. Enfin, un autre monde, alors qu'ils sont tous en train de s'effondrer dans celui-là. Et il y a quelque chose, y compris dans le doute qu'il peut y avoir sur ce qui est raconté à ce moment-là et dans ce qui se passe après cette partie. Parce que après la partie dont Elisabeth parlait, où on entend Julie en direct raconter son histoire, on revient à la narration à la troisième personne et au doute, à la multiplicité des doutes. On ne peut pas en dire plus sur la chose extraordinaire qu'elle racontait.
Grégoire Le Ménager, qu'on n'a pas encore entendu sur la fracture de Nina Allan. C'est à lui maintenant.
C'est à moi. Alors, moi, Nina Allan, j'avais jamais lu ça. Mon camarade Didier Jacob de l'Obs était allé lui rendre visite sur une île où elle vit en Écosse, une petite île au large de l'Écosse, avec son mari qui s'appelle Christopher Priest, qui écrit aussi de la science-fiction, je crois. Et il en était revenu en disant qu'elle regardait beaucoup de films d'horreur. C'est une de ses grandes passions, elle regarde des films d'horreur. Et effectivement, ça se sent un peu. C'est-à-dire que le roman commence comme un... Je parlais de David Lynch tout à l'heure, quelque chose d'un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça commence comme un thriller, très très bien. Moi, j'ai trouvé les 100 premières pages, j'étais très accroché par cette histoire de fille qui disparaît. Et puis après, c'est vrai que ça bascule dans autre chose, et il y a une sorte de kaléidoscope qui tourne comme ça, d'hypothèses plus ou moins dingues, et y compris des hypothèses un peu paranormales. Et là, pour le coup, c'est plus tout à fait mon genre de beauté, je dois le reconnaître. Il me manque peut-être une sensibilité à ce genre de beauté-là, mais ça n'est pas la mienne. En revanche, régulièrement reviennent des éléments, disons, réalistes, qui pour le coup me touchent souvent beaucoup. C'est-à-dire qu'en particulier, tout ce qui est dit sur le sentiment que peuvent éprouver des gens, des parents ou des gens de la famille quand quelqu'un a disparu et qu'il n'y a pas de corps et qu'il n'y a pas d'explication, je trouve que tout ça, me semble-t-il, est d'un point de vue psychologique, d'un point de vue très très sensible, très bien restitué. Et la douleur du père, le père est un personnage magnifique, le père qui s'enfonce dans sa dépression, dans une forme de folie aussi. Toutes ces pages-là sont très très belles. Et puis après, la facture du livre fait que il y a une fracture et qu'on repart sur complètement autre chose. Alors là, moi, je suis un peu largué et je continue quand même pour retrouver le père que j'aime bien et je le retrouve, je suis content et suis de nouveau perdu. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, finalement, on se demande ce qu'on a lu, on se dit que... Ce n'est pas que négatif quand je dis ça. Oui. Il y a quelque chose d'assez fascinant de ce point de vue. Effectivement.
Ce qui m'intéresse en effet, c'est que les bases chez Nina Allan sont extrêmement instables. Mm-hmm. Qu'elle relance les dés. Oui. Parce que vous dites que ça commence très fort, un thriller. Rappelez-vous bien, on a lu le début du deuxième chapitre. Mais avant, il y a un premier chapitre qui est très différent. Et il y a même un. Alors, je ne sais pas s'il est nommé prologue ou.
Quelque chose comme ça.
Je ne suis même pas sûr.
Oui.
En tout cas,
c'est-à-dire qu'il y a trois faux départs. Il y a quelque chose qui déjà.
Avec ce personnage de professeur dont on ne comprend pas vraiment la présence.
L'avant. Voilà. Donc.
C'est très intéressant du livre au fond et elles sont magnifiques.
C'est très intéressant parce qu'à partir de là,
effectivement,
on est quand même dans une position instable. Et moi, pour le coup, j'aime plutôt ce genre de position comme lecteur. Et
mais en fait, on pourrait presque le résumer en disant que c'est une variation sur le mot alien parce qu'il y a ces aliens. Les deux filles plus jeunes jouent à repérer les aliens. Et justement, ce professeur dont on parle, dont on comprend pas vraiment le rôle dans le livre, pas tout de suite. Elle le qualifie tout de suite d'alien parce qu'il est un peu étrange. C'est aussi alien. Un sens étranger parce que ces deux sœurs qui ont été très très proches, elles le disent, on était vraiment très très proches. Et puis avant même la disparition, il y a eu déjà une fracture entre elles. Donc comment on devient étranger, un alien pour des gens qui sont même de notre sang, dans notre famille. Et puis il y a l'alien aliéné, aliénation. Et moi je trouve qu'il y a un motif aussi, il y a une image qui court le long du roman, c'est la référence à Anna Anderson, cette femme qui s'était fait passer pour Anastasia, la princesse russe Anastasia, tuée en 1917. Et donc on joue vraiment autour de cette polysémie en gros de l'alien, et je trouve que ça c'est très fort, et c'est vraiment tous ses sens, elle les explore en fait dans chacune de ces parties, dans chacune de ces pistes qu'elle ouvre dans ce roman pour tenter d'expliquer ou non la disparition de Julie.
Je retiens en effet l'idée des motifs, parce que au-delà du kaléidoscope, le livre est uni par deux choses, à mon avis. D'abord, ce sens de la précision, de la présence des personnages, et d'autre part par une série de motifs comme celui-là en effet. Et on peut dire aussi que le livre est une variation sur l'idée de trou noir, qui est un objet de fascination pour les héroïnes. De trou noir, vraiment, ce sont des variations. Il y a le trou noir lui-même, il y a l'idée que nous vivons dans un univers où quelque chose existe qui peut dévorer tout le réel. Mais les motifs de destruction totale, les motifs de... Il y a d'ailleurs la création d'une espèce de bête sur laquelle je ne m'étendrai pas, parce que ça dévoilerait trop, mais
parce que
qui dévore, justement, qui dévore de l'intérieur, qui vide tout le monde. Il revient sans cesse dans le livre, et vraiment, ça lui donne son unité. L'idée qu'on peut être dévoré, que tout peut disparaître, que l'idée de la fragilité essentielle des choses.
Il est presque construit selon ce principe.
Exactement.
Le
mais
chaque
justement,
chapitre dévore le précédent. Et
oui, le trou noir est le moteur du livre, en ce sens. Et c'est ce qui donne d'ailleurs son sens au livre. Il n'est rien d'autre que ça. La fable, la partie centrale qui est dehors de la fable, au fond, peut être lue d'une manière totalement naturaliste, puisque c'est un discours. Et donc ce qui compte, c'est peut-être l'émetteur de ce discours plus que ce qu'il contient. Et le livre tend à revenir vers ça, même s'il garde toutes les incertitudes à la fin. Mais avant tout, on voit simplement des petits personnages très vivants, très concrets, mais se débattre face à l'univers, face au trou noir qui avance. Et il y a une lecture... La fable renvoie au naturel, mais l'ensemble du livre renvoie à une sorte de métafable, si je peux dire, où... au fond, on nous a raconté, au bout du compte, que cette histoire-là de corps humain, de chair réelle, qui sont face à la dévoration universelle et à la possibilité de la destruction. C'est pour ça que d'ailleurs ce petit prologue qui s'appelle L'Avant et que vous avez eu raison de signaler, Arnaud, dit tout.
Il me flatte pour garder la parole. Hein.
Ah, vous avez remarqué, vous
dites tout. Tout le monde l'a entendu, Florent. Vous êtes grillé, mais immédiatement.
Le prologue, donc, qui est très important. Non, il y a juste ça, des carpes dans un bassin.
Grégoire que le lecteur aura le mot de la ça. Fin.
Oui, mais non, effectivement, je reconnais que très volontiers qu'il y a une cohérence thématique qui est très impressionnante dans le livre et qui témoigne aussi de la virtuosité de Nina Allan, ça, qui est incontestable. Et cette cohérence thématique, moi, je la vois beaucoup dans l'expression du sentiment de fin du monde qui imprègne à tous les niveaux le livre. Il est question à un moment du dérèglement climatique qui menace le monde, qui est évoqué à un moment, jusqu'au sentiment de fin du monde qu'éprouve ce père quand sa fille a disparu, enfin, qui fait que plus rien n'a de sens, que plus rien n'existe, que tout s'effondre.
Quoi. Donc répertoire des
ça, c'est vrai.
Et il y a quelque chose de forme de fin de
ouais, ouais. Et il y a quelque chose de très crépusculaire là-dedans qui colle assez bien avec le sentiment que vous
avez. Partageons.
Quand vous n'êtes pas en vacances, en ce moment là, au début des années 2000. Ouais.
La fracture de Nina Allan est publiée chez Tristram dans une traduction de Bernard Sigaud. C'est l'heure du coup de cœur d'Elisabeth Philippe qui va, avant que j'oublie, d'Anne Pauly chez Verdi, Elisabeth.
Oui, c'est un premier livre, alors pas un premier roman puisqu'il s'agit d'un récit. Anne Pauly raconte en effet la mort de son père qui n'était pas franchement un héros, c'était pas mon père ce héros, pas vraiment, puisqu'il était alcoolique, violent, et il les a fait vivre son frère, sa mère et elle dans ce qu'elle appelle une ambiance de guerre civile. Mais cet homme, parce que c'est jamais aussi simple que ça, eh bien il aimait aussi feuilleter des livres sur le Tao, des poèmes de François Villon, installé dans son fauteuil Eversteel, donc c'était vraiment un père, elle le qualifie comme ça, un père Janus, un transfuge de classe, capable du meilleur comme du pire, et qui a une fin de vie extrêmement difficile, très malade, amputé d'une jambe, seul. Alors, tout ce que je dis là, évidemment, on pourrait se dire que c'est un récit tragique, misérabiliste, qui verse dans le pathos. Non. Anne Pauly évite tous ces écueils. En fait, elle raconte ce deuil, donc son deuil. Hein, elle se nomme dans le livre. Elle fait jamais mystère que c'est sa propre histoire qu'elle raconte. Elle raconte ce deuil avec simplicité et franchise, dans une prose d'une très grande sobriété, mais où affleure toujours sa sensibilité, même son humour, puisqu'il y a certaines scènes qui relèvent vraiment de la comédie italienne des années 70, donc où le burlesque côtoie le tragique, sans que jamais ce soit sordide. Il y a notamment une scène où elle se rend avec sa compagne dans une petite église pour préparer la messe d'enterrement parce que son père tenait à être enterré religieusement. Et là, c'est vraiment le choc des cultures et c'est très, très, très amusant. En tout cas, Anne Pauly, je trouve qu'elle s'acquitte avec panache et tendresse de la mission qu'elle s'est donnée, à savoir honorer la mémoire de vaincu de son père. Et elle lui érige un très beau et modeste monument aux morts avec ce livre.
Ce livre qui s'intitule « Avant que j'oublie » d'Anne Pauly, donc chez Verdier.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Dernier livre au sommaire de notre émission ce soir, celui de la Wonder Kid irlandaise Sally Rooney, née en 91, qui publia avec un succès retentissant en Grande-Bretagne Conversation entre amis. Elle avait 28 ans au moment de la parution du livre. L'édition de l'Olivier publie ce premier roman dans une traduction de Laetitia Devaux, Au-dessus du trouple. Je me suis demandé si c'était le quadruple. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une histoire donc de quadruple. Je vous propose ce terme que nous raconte Sally Rooney avec trois femmes et un homme. Trois femmes qu'elle nous fait rencontrer au tout début de son livre, lu ici par Aïssa Tundoy.
Bobby et moi avons fait la connaissance de Mélissa lors d'une soirée poétique en ville où nous nous produisions ensemble. Mélissa nous a photographiés dehors, Bobby avec une cigarette et moi le poignet gauche fermement tenu dans la main droite comme si je craignais de le perdre. Mélissa avait un gros appareil professionnel ainsi que plusieurs objectifs dans une valise dédiée. Elle bavardait et fumait en prenant des photos. Elle nous a parlé de notre performance et nous lui avons parlé de son travail qu'on avait eu l'occasion de voir sur Internet. le bar a fermé vers minuit. Comme il commençait à pleuvoir, Mélissa nous a invités à venir boire un verre chez elle. On a pris toutes les trois places sur la banquette arrière d'un taxi, puis attaché nos ceintures de sécurité. Bobby était au centre et tournait la tête vers Mélissa, si bien que je ne voyais que sa nuque et sa petite oreille en forme de cuillère. Mélissa a donné au chauffeur une adresse à Monkstown. Je regardais par la vitre. De la radio se sont échappés les mots « années 80 »,« pop », »,« classique », puis « un jingle ». Je me sentais tout excitée, prête pour le défi de découvrir la maison d'une inconnue. Je préparais déjà des compliments et certaines expressions de mon visage pour me montrer sous un jour charmant.
Conversation entre amis, Sally Rooney, traduction Laetitia Deveau, vous êtes en train de le relire, Grégoire Le Ménager, vous m'en dites deux mots, la synthèse de début de dispute. Vous avez l'air tellement dubitatif.
Deux mots, ou un,
si vous voulez.
C'est un peu long.
Florent Georgesco.
Idem, oui, un mot suffit parfois.
Bon, Elisabeth.
Je dirais, j'ai trois mots en trois briques, agile, sensuel et cérébral.
AGC donc. Hein. Non, ASC, je ne sais plus. Agile, sensuel et cérébral. ASC. ASC, peut-être. Mais, alors, je vous ai déjà fait débuter sur le livre précédent, mais comme je préfère que ce soit quelqu'un de plus enthousiaste qui débute notre dispute, ce sera donc vous, Elisabeth Philippe. Je vais un peu vous soutenir.
C'est gentil, merci Arnaud.
Un peu.
Oui, même si j'ai fait une petite erreur en programmant ce livre, je la confesse.
Ah oui, c'est vrai.
Vous venez ce livre ne paraît que le 5 septembre, donc je tenais quand même
c'est à... C'est un peu long pour attendre. C'est ça qu'ils voulaient dire tout à l'heure, vos camarades.
Voilà, absolument.
Nos auditeurs.
Alors,
ils vont plus tenir d'impatience.
Pourquoi Sally Rooney?
Alors, Sally Rooney, moi, ce livre, quand je l'ai lu, m'a tout de suite emporté. Et je me demandais pourquoi, justement. Parce que je disais, bon, c'est une histoire assez classique. Donc, on a ces deux étudiantes, Francis et Bobby, ouais. Qui ont une petite vingtaine d'années, qui font la connaissance d'un couple de trentenaires à qui tout réussit. Mélissa... jeune poétesse et écrivaine dans le vent, et son mari Nick, très très bel homme, acteur. Ils se rencontrent, et alors au départ, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a l'impression que ce qui va se jouer, l'adultère, si adultère il doit y avoir, ce sera entre Bobby et Mélissa.
Bobby donc, étant une femme, je
Bobby étant une femme, donc... Soyez concentrés parce que c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'au départ, la focalisation est mise sur ces deux personnages, ils sont beaucoup plus en avant, on sent qu'il y a un désir qui passe entre elles, et... C'est le premier moment où Sally Rooney déjoue les attentes. Là, elle déjoue les attentes en termes d'intrigue, puisqu'en fait, très très vite, Mélissa disparaît quasiment de l'histoire. Et ce qui va se passer, et ça je ne divulgage rien, c'est en fait entre Francis et Nick que quelque chose va commencer à s'élaborer. Donc ça, c'est le premier moment où elle déjoue les attentes. Et en fait, tout ce livre est bâti comme ça. Moi, je trouve que c'est ce qui fait son charme. C'est qu'à chaque fois, on se dit, mais c'est quelque chose de très classique. Et non, il y a de subtiles modifications qui font qu'elle nous emmène un tout petit peu ailleurs, qu'elle nous déporte un tout petit peu ailleurs. Encore une fois, ce livre pourrait s'inscrire dans la grande tradition du roman d'adultère, du roman bourgeois du 19e siècle. Jane Austen, Emma, par exemple. On peut penser à Emma aussi, où il est question d'histoire d'amitié très intense. Ou à Middlemarch de George Eliot, livre que lit d'ailleurs Francis, la narratrice, puisque ce roman brasse les mêmes grands thèmes, celui du mariage, donc de l'adultère, de l'idéalisme, et même comme chez George Eliot, les idées, le capitalisme, puisque Francis est très très anticapitaliste.
Elle est communiste.
Et il y a ces histoires donc de mariage et d'adultère. Donc on pourrait se dire c'est un roman somme toute très classique, mais là aussi elle va l'emmener un tout petit peu ailleurs et en déjouant aussi les attentes en termes de genre, cette fois-ci de stéréotypes de genre, puisque généralement dans les romans d'adultère, les personnages un peu passifs sont les femmes, sont elles les objets du désir. Et là, c'est le personnage masculin qui, malgré tous ses attributs de mâle, on va dire un peu dominant, très grand, qui a qui encore une fois tout réussit, c'est lui qui est l'objet du désir. C'est autour de lui que le désir
se cristallise
et oui, même pas tant que ça parce qu'il passe. En fait, c'est qu'un support pour ce désir qui circule surtout entre les personnages féminins. Donc toutes ces modifications subtiles sur un matériau très classique, moi je trouve que c'est ce qui constitue le charme principal de ce roman.
On va entendre maintenant Florent Georgescu, avec la concision qu'il caractérise.
Oui, vous allez... Écoutez, je n'ai pas été sensible à ces décalages. J'ai vraiment eu le sentiment, au contraire, d'un roman très statique et convenu. Justement, je ne vois pas en quoi, sauf qu'il il est simplement adapté à son temps. Il se passe dans une époque donnée, la nôtre. Mais à part ce détail-là, je ne vois pas la différence avec la grande tradition du roman d'adultère bourgeois, en effet. C'est simplement une donnée sociologique qui est différente. Mais quel regard apporte-t-elle sur ça, alors que j'ai vu sans cesse... d'abord une assez faible capacité à dessiner ces personnages qui sont un peu résumés de bout en bout par une étiquette. Et quand vous dites le type Nick est l'objet du désir, il est passif, et c'est ce qui inverse un peu, le problème c'est que cette passivité, moi je ne la vois pas très nettement dans le livre. En revanche, elle est dite sans cesse. Parce que elle fait revenir sans cesse des étiquettes pour chacun des personnages, et je ne vois pas autre chose que ces étiquettes. Il se trouve que c'est sa femme, Mélissa, qui dit de lui, qui a défini définitivement, si je puis dire, son mari par ce mot. Il est passif, bon, et chacun se répète ça, encore une fois, de bout en bout. Mais quelle autre existence du personnage ? Ce schéma de passivité n'est rien d'autre que... n'apparaît pas autrement que dans la manière de le définir chez les personnages, comme un élément de langage simplement des personnages. Mais pas,
mais justement, je vois pas, c'est le langage qui d'existence constitue tout. Psychologique. C'est un livre entièrement fondé sur le langage.
Oui, mais
c'est
il
pas
est
pour
pauvre.
Rien qu'il s'appelle... Ah non, je...
Mais il est pauvre, enfin, parce que par ailleurs, on est... Alors c'est peut-être une vision sociologique, enfin c'est peut-être une vision juste du monde qu'elle dépeint. Le problème étant qu'elle n'a pas ne crée pas de mouvement par rapport à ça. Elle n'a pas pour moi beaucoup de distance. Parce que par ailleurs, quel horrible monde convenu, conventionnel, où tout le monde se surveille en permanence. Moi, je n'ai pas lu depuis les années 30 de romans où...
Vous lisiez déjà dans les années 30.
Vous ne vous souvenez pas, Arnaud, de ces belles émissions où on entend si souvent des personnages dire à une jeune femme amoureuse, vous savez, il est marié. Ça revient toutes les 20 pages.
Oui, mais c'est là où se situe le décalage. C'est ça qui est assez amusant.
Non, parce qu'elle ne fait rien de drôle avec ça. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça ?
Grégoire Le Ménager va répondre à cette question. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça ?
Bon, alors le début de ce livre, toute la phase où le désir cristallise, ma foi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on est dans la tête de cette fille de 21 ans qui tombe sur un beau gosse qui a 32 ans, qui a un problème, c'est qu'il est marié et elle sent le désir qui monte en elle. Elle n'arrive pas très bien à le nommer au départ et petit à petit, ça apparaît, ça cristallise et voilà. Après, une fois que le désir il a cristallisé et qu'on est passé à l'acte, ça devient quand même un petit peu plus ennuyeux, je trouve. Et toute la deuxième partie du livre... mais apparu un peu comme un long tunnel quand même, avec assez peu d'effets de décalage, de renouvellement, de surprise. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que là, pour l'instant, vous n'avez jamais parlé de son style. Oui, il y a quelque chose d'un peu ironique et d'un peu sarcastique. Il y a quelque chose d'un peu, quelquefois, d'un peu brillant dans les dialogues, dans les conversations. Le titre, c'est « Conversations entre amis ». Peut-être que ça apparaît brillant parce que la partie de narration pure est... d'une platitude absolue. À ce stade, c'est un geste esthétique radical, presque. C'est-à-dire que vraiment, elle ne nous épargne rien. Tout a l'air d'être complètement au premier degré dans la partie de narration. Quand elle nous dit ce qu'elle a acheté chez le boucher, c'est au premier degré. Quand elle essaye de nous dire les sentiments qu'elle...
Dans ce cas-là, ça vaut aussi pour Prud'homme, ce que vous dites ça. Enfin, dans ce cas-là, Prud'homme qui raconte sur un paragraphe comment il fait ses pâtes à l'ail j'aime énormément le livre de Prud'homme.
Réunion de rédaction.
Mais dans ce cas-là, cette critique, elle devrait valoir aussi pour Prud'homme.
Laissez Prud'homme tranquille, s'il vous plaît. il n'a rien demandé à personne. Là, on parle de sale ironie. Bon. Après, pour sauver quand même les choses et pour pas me brouiller définitivement avec Elisabeth Philippe, que je risque de retrouver demain matin dans une machine à café perdue parce qu'il lui manque des capsules.
Vos bureaux sont assez éloignés.
Elle va mendier, encore une fois.
Vous êtes très proche dans la rédaction
oui, très proche. Ouais,
vos bureaux se touchent.
Si vous saviez.
Ah bon, d'accord.
Et Non, la chose que je trouve plutôt intéressante, c'est la manière dont cette jeune fille de 21 ans endosse la narration du début à la fin. Et il y a une différence de perception assez nette entre la manière dont elle se perçoit, elle. C'est-à-dire que c'est une fille qui ne s'aime pas. Mmh. Et elle passe son temps à dire...
Elle se fait du mal.
Et elle se fait du mal. Et elle passe son temps à dire qu'elle ne s'aime pas.
Là, il y avait de l'ironie,
pas, qu'elle est une fille banale.
C'est ça, l'ironie.
Que sa copine est infiniment
plus... Elle ne comprend pas pourquoi elle est sur les photos comme sa copine.
Est infiniment plus séduisante, belle, plus brillante, ouais, plus éloquente, etc. Donc, elle ne s'aime pas. Or, l'acteur, il est fou amoureux d'elle. Et elle n'arrive même pas à croire que ce type puisse être fou amoureux d'elle. Et ça crée un petit décalage qui, ma foi, sur 200 pages, marche plutôt bien. Mais je trouve le livre un peu long.
Bon, c'est le seul problème, c'est que le point positif que je voulais apporter a déjà été énoncé par mon ami Grégoire Le Ménager. Oui, c'est le début du livre. Pas le tout début, hein. J'ai quand même eu un petit peu peur au début. Et puis effectivement, cette voix fonctionne.
Je peux dire un truc positif, peut-être.
Allez, Florent Georgescu, ce sera le scoop du jour.
Quand même, elle mène plutôt bien sa barque, narrativement. Il y a une certaine habileté dans l'enchaînement des scènes, etc. Moi, je ne veux pas... moi, je ne suis pas en train de dire que c'est un truc innommable. elle est assez efficace, mais on est vraiment dans une toute jeune autrice. Bah, justement, le problème, c'est ça. C'est que c'est une toute jeune autrice et qu'elle a en fait simplement de la maîtrise, une très grande maîtrise technique. Et derrière, elle quelque chose qui est d'une pauvreté. Parce que, pardon,
vous... Allez, non, vous avez dit juste une petite chose.
Parfois, il y a un petit sens de la répartie.
Restez sur le positif, Florent, ça nous changera.
Il y a un malheur, c'est qu'il parle politique là-dedans. Ah oui, c'est une bêtise.
Mais c'est là où je pense qu'il y a vraiment une
bêtise.
Elle se moque
d'eux.
Elle se moque pas d'eux.
Elle dit que des bêtises.
Elisabeth, vous avez la parole.
Vous connaissez.
Elle n'est qu'à vous.
Je vous remercie.
Coupez les micros de Florent.
On voit effectivement, et je trouve que je remercie Grégoire de l'avoir très bien résumé. En fait, tout ce qui compte, c'est surtout les changements intérieurs au sein de cette narratrice, Francis. Alors, c'est des choses assez imperceptibles, mais c'est tout le propos du livre. Alors oui, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais c'est des changements très subtils, intérieurs. Et parce qu'en fait, ce personnage est constamment dans la réflexion. Il y a une surconscience d'elle-même. Et c'est aussi quelqu'un qui part avec énormément de théories. Et c'est vraiment la confrontation de la théorie à la pratique. C'est quelqu'un qui n'est constitué que par le langage. Et tout d'un coup, elle est dépassée par des émotions. C'est aussi la confrontation du langage aux émotions. Elle est trahie par son corps. Elle est trahie par son corps qui désire, par son corps qui souffre. Et c'est ces changements-là qu'on va voir se mettre en place progressivement au travers du livre, qui est par ailleurs assez drôle, assez sensuel. Il y a des scènes de sexe plutôt réussies. Et je trouve que c'est un roman qui se lit très agréablement.
Il a l'air bien, le livre dont vous parlez, Elisabeth Philippe.
Oui, je le lirai volontiers.
Ouais, moi aussi. Ça s'appelle Conversation entre amis.
Confiance.
Salut René. Il est publié aux éditions de L'Olivier. Il sortira donc le 5 septembre dans cette traduction de Laetitia Devaux. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint pour nous donner d'abord la réponse du jeu d'hier et nous rappeler tout d'abord sa question, David.
Le titre du film Vif Argent fait référence au dieu mythologique ou à l'élément chimique ? Et la réponse est les deux.
C'est pas mal ça. C'est un peu Burger Quiz sur France Culture. À gagner ce soir, des entrées. Il fallait dire les deux.
Ah oui.
Si on répondait qu'un, eh ben non, c'est une mauvaise réponse.
C'était vrai.
Faut suivre Florent. Mais vous perturbez même le jeu. On fait gagner ce soir des entrées pour l'exposition Kerr Xavier Roussel, Jardin privé, Jardin rêvé. C'est jusqu'au 11 novembre au Musée des Impressionnismes à Giverny. Quelle est la question, David?
Dans quel mouvement artistique Kerr Xavier Roussel a-t-il évolué?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. La prise de son ce soir, Nicolas Delmas. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission, y compris la vraie date des sorties des livres, toutes ces informations sont à retrouver sur notre site internet, franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions et vous abonner à son podcast. On se donne rendez-vous demain à 19h pour une dispute cinéma. En compagnie de Lucille Como, Antoine Guillot et Muriel Joudet, nous parlerons de Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin, Une fille facile de Rebecca Zlotowski, Apocalypse Now, Final Cut de Francis Ford Coppola. Et puis il y aura un coup de cœur d'Antoine Guillot pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.